Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'est pas une équipe qui a forcément beaucoup de bagarres, donc il va falloir être plus malin, plus intelligent.
On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser.
C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, si je puis dire.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Après donc l'égalité de Nice à Bâle 2-2, on va en parler longuement ce soir ensemble avec Lionel Charbonnier. Salut Lionel.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Salut Dan.
Vous avez eu les scores avec Nico Villas il y a quelques instants, mais je me parlais de vous les rappeler parce que c'est important pour la place de la France
parce que c'est une soirée
niveau
très
européen
animée, quoi,
et soirée animée. Alors donc Nice et Bâle, donc Bâle Nice 2-2. Le futur adversaire potentiel de Nice, c'est le vainqueur du match Poznan Fiorentina. Bon, Fiorentina a gagné 4-1 en Pologne, donc on peut considérer que ce sera eux. Les clubs hollandais, alors les clubs hollandais, il faut les surveiller de près parce que c'est eux qui pourraient empêcher. Ouais, exactement. Ouais. Alkmaar a perdu ce soir 2-0 face à Anderlecht.
Ça, c'est bien.
Donc c'est plutôt bien en Conference League. Et Feyenoord a battu la Roma 1-0. Bon, en attendant le retour, on verra si la Roma arrive à renverser tout ça. Sinon, Leverkusen, Saint-Gilloise, un partout. Trois clubs belges ce soir.
Incroyable la Saint-Gilloise quand même, hein, ce résultat.
Ouais, avec un
encore.
Petit budget. Voilà. La Juve. Bâle Sporting 1-0, je précise qu'on aura les drôles de dames tout à l'heure avec nous, et puis Manchester United Séville 2-2. Fred Hermel et Julien Laurence seront là tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous les sujets du soir. On va parler Europa League, Conference League, mais aussi de l'actu du jour et des évolutions de ce jeudi de l'affaire Galtier, entre autres choses, dans l'actu du jour tout à l'heure. Le hashtag RMC Live est ouvert sur Twitter. Direct Studio, notre appli, enfin notre messagerie à nous, pardon, sur l'appli RMC Sport. N'hésitez pas à nous écrire sur Direct Studio, on vous attend évidemment là-dessus. C'est parti, messieurs, dames, les trois points.
À l'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Soit l'essentiel, c'est le plus important.
Ah, on entend Christophe Galtier d'ailleurs dans ce jingle célèbre de l'after. Lionel, de quoi veux-tu parler ?
Écoute, au début, dans mon point numéro 1, ce 2-2 ne me satisfait pas personnellement. Je trouve qu'il y avait des choses, enfin une meilleure chose à faire, et notamment aller chercher la victoire.
Mieux qu'un nul, c'est une victoire, Lionel.
Non, mais fallait aller la chercher parce que là ils se sont contentés de gérer, et ça me voilà. On pouvait faire beaucoup mieux que ça, ces Niçois. En point numéro 2, obligé de parler de Mofi avec ce but d'extraterrestre et des stats extraordinaires quand même depuis qu'il est arrivé à Nice. Et puis en point numéro 3, honnêtement, j'attends d'avoir les drôles de dames, mais ce 2-2 de Manchester contre Séville, à 2-0, j'ai dit ça y est, la messe est dite, et puis là un 2-2, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu voir le match, mais j'ai hâte d'entendre nos drôles de dames là-dessus.
Daniel.
Je rejoins Lionel dans l'idée que à 2-2 en Coupe d'Europe, bon, finalement, en fait, c'est comme si c'était 0-0. C'est ça le truc. C'est qu'à une époque, un 2-2 aurait été jugé très bon résultat en Coupe d'Europe à l'extérieur. Mais là, c'est exactement comme si c'est rien passé. Et tout sera à faire la semaine prochaine. Donc, mon avis sur le match, c'est que Nice a plus joué un match de championnat qu'un match de Coupe d'Europe. C'est un peu comme si cette intermittence qu'ils ont eue dans la rencontre leur avait leur a coûté la victoire. Avec des inattentions, une concentration qui n'a pas été continue du début à la fin. Il y avait parfois un peu de dilettantisme agaçant. Le point 2, c'est évidemment que les supporters niçois se souviendront de ce but incroyable de Mofi qui fait redresser tout le monde
dans le
canapé.
Je crois que c'est le foot qui peut s'en souvenir, parce qu'il est fabuleux.
On se redresse dans le canapé, on est hyper heureux de voir ce genre de geste. Il met un doublé, c'est très important en Coupe d'Europe. Je fais une parenthèse dans les points, mais ceux qui disent que la règle du but à l'extérieur, peu importe que ça existe ou pas, le 2-2 à l'extérieur, c'est un super résultat. Là, aujourd'hui, c'est comme si ça
non,
compte pas.
Ça compte plus.
Mais
ça
si compte plus. Quand ça comptait, La valeur de ce but de Mofi.
Bien sûr.
Déjà qu'on l'a adoré ce but. Mais la valeur du doublé de Mofi à Bâle.
Bien sûr.
En quart de finale de Coupe d'Europe. Ça aurait été encore plus important. Évidemment, ça fait penser au retourné.
de Lilian.
Écoute, ça fait le même.
Vous êtes bien fait fourrer, hein,
Lionel. Presque, mais, ah, mais la différence, c'est que le défenseur a été plus intelligent, parce que le défenseur de Dortmund a fait mine de mettre la tête.
Ouais, il est loin, vous êtes fait fourrer.
Vous êtes fait fourrer. On s'est fait fourrer, c'est évident. Mais l'attitude du défenseur, là, le défenseur de balle, lui, il s'est carrément mis la tête entre les bras.
C'était la grande Coupe d'Europe et c'était Dortmund.
C'était pas le même arbitre aussi. C'est un autrichien.
Futur vainqueur, en plus, Dortmund.
Ils ont gagné.
Cette année-là. Ah,
c'était là la fameuse sortie de Giroud sur les arbitres autrichiens.
Évidemment. Oui, évidemment.
Qui, à une certaine époque, était dans le même pays.
Avec voilà, c'est ça.
C'était le même soir.
C'est pour ça que je me souviens de ça.
Je lâche mon troisième point vite fait, sans rapport avec le match. Il y avait une belle soirée de Coupe d'Europe secondaire, mais moi, je n'ai rien contre ces Coupes d'Europe secondaires. Mais j'ai vu passer la news, comme tout le monde, sur le PSG qui veut racheter le Stade de France. Bah, ça me sidère, parce que si ça veut dire qu'ils ont vraiment dans l'idée d'emmener le PSG là-bas, eh bien écoute, ils auront terminé de tuer le PSG. Voilà, ouais. Il faudra passer à autre chose. Voilà.
Bon, on en dira un mot tout à l'heure, comme ça, là aussi, supporters parisiens, vous pourrez réagir. Il y a un article complet sur rmcsport.fr concernant cette histoire. On va démarrer avec Quentin, qui est supporter niçois. Salut Quentin.
Oui, salut messieurs.
Salut Quentin.
2-2 à l'extérieur, tu te dis que c'est pas mal en Coupe d'Europe, même si les règles ont changé récemment, évidemment.
Alors, tu m'aurais posé la question avant le match, j'aurais signé. Après, effectivement, c'est un peu frustrant dans le sens où nos deux buts viennent de deux erreurs de nos latéraux de fortune. Le premier, au-delà de la faute de Todibo, c'est surtout Amraoui qui couvre de 1 mètre et qui nous fout dedans sur le long ballon. Mais il a 18 ans, hein, pas lui blâmer, hein, mais voilà, c'est quand même malgré toute sa faute. Et le deuxième, c'est Rosario qui lâche totalement le marquage sur le centre, quoi. Donc c'est en ça que c'est un petit peu frustrant. Après, on a fait aussi une grosse erreur en deuxième mi-temps, c'est d'essayer de gérer, ce qu'on ne sait absolument pas faire. On l'a payé plusieurs fois cette saison, on mène 2 fois à Nantes, on se fait revenir 2 fois.
Exactement.
Voilà, à chaque fois qu'on essaye de gérer et de... Alors, je sais pas si c'est un peu le côté, ce sentiment de supériorité, je veux pas y croire.
Bah non, il vaut mieux ne pas y croire, Quentin, ce serait une faute majeure, je veux pas croire en tout le pareil.
Mais tu te demandes, pourquoi ils sont dans la gestion comme ça, tu te demandes, ils sont pas dans la gestion,
c'est que la Coupe d'Europe, c'est un métier, la Coupe d'Europe, c'est savoir que tu dois rien lâcher.
Non mais Daniel, ils étaient dans la gestion, honnêtement,
je crois pas qu'ils aient programmé de gérer quoi que ce soit, Lionel, si tu me permets.
Certains.
Je ne crois pas.
Je suis d'accord avec Quentin.
Je ne crois pas.
Je suis d'accord avec Quentin.
Au-delà du côté de gérer, de se sentir supérieur, ce à quoi je ne pense pas, c'est surtout la peur de s'en prendre un, en fait. C'est ça qui me dérange plus. Au lieu d'attaquer, quand on est en plus, on a très très bien commencé la deuxième mi-temps, sauf qu'au bout de la 60e, au bout d'un quart d'heure en deuxième mi-temps, on a essayé de temporiser un petit peu, revenir tout le temps en arrière, passer
ça
par
ça jouait dans la largeur, au lieu de continuer à jouer dans la profondeur. Non, je suis entièrement d'accord
Exactement.
Avec toi.
On a beaucoup moins vu, en plus, on a beaucoup moins vu Ramsey qui commençait à prendre beaucoup d'importance là en première mi-temps. Voilà, on n'a pas.
Thuram a commencé à jouer plus derrière. Aussi.
Ouais, il a joué plus bas. C'est
exactement.
Pour ça que, voilà, j'aurais signé pour un 2-2 et un match nul là-bas, surtout avec les différents absents qu'on a. Maintenant, voilà, on est, je pense, intrinsèquement quand même au-dessus en termes de qualité de jeu. Par contre, au niveau de la gestion des émotions et au niveau de l'intelligence de gérer les événements d'un match, je suis pas sûr qu'on soit forcément au niveau. Donc, à voir au match retour, il va falloir marquer plus d'un but parce qu'on risque de s'en prendre aussi. Derrière, on est moins serein qu'avant, parce qu'ils ont quand même plusieurs situations avant d'égaliser. Mais c'est quand même un bon résultat dans l'ensemble, à pas faire la fine bouche. Et on a quand même assisté à un but exceptionnel. Hein. Il faut pas l'oublier.
C'est vrai. Oui.
Avec Mofi, qui fait du bien. Hein, c'est un super recrutement.
Ah bah Mofi, là, qui confirme ce soir que c'est un recrutement réussi, quoi.
Bah ouais, au-delà du doublé, j'ai regardé les stats. 7 buts en 11 matchs depuis qu'il est à Nice. Il est impliqué sur 8 des 10 derniers matchs, des 10 derniers buts dans les matchs
à
l'extérieur.
On a oublié un peu la mise en route compliquée.
Au début, bah ouais. Et j'avais dit d'ailleurs,
sa mise en route a même fait
craindre à certains qu'il ne soit pas adapté.
Bien évidemment, je me souviens d'avoir tweeté quelque chose, j'ai dit attendez, patience pour Mofi, ça va venir, ça va être un peu plus long que prévu. Je me souviens de mon tweet et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et il est extraordinaire, franchement. C'est et y a aussi un mec, alors je sais pas ce que t'en penses, Quentin, j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. C'est pas le cas de tout l'effectif, mais c'est Laborde. parce qu'il a fait un travail extraordinaire.
Je trouve qu'il est très utile, ce joueur.
Extraordinaire. Ça a été le premier défenseur. C'est lui qui fait le, qui dépose la balle sur Mofi. Il a eu une activité incroyable et ça a duré 93 minutes.
Son activité à la borne, sur le premier but. Son activité, c'est-à-dire d'y aller, d'aller au combat, de s'arracher pour toucher le ballon.
Il est dans l'esprit Coupe d'Europe, il est resté du début à la fin.
Il va pour tacler ce ballon qui finalement est mal repoussé et revient sur Mofi. Son travail est utile.
Bien sûr, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, j'ai trouvé.
Ça a toujours été un joueur extrêmement généreux.
Mofi et Laborde, franchement, je leur donne les deux meilleures notes du match pour les deux meilleures notes sur tout l'effectif.
Et puis surtout, voilà, il crée, voilà, il essaye d'avaler les espaces à chaque fois. En deuxième mi-temps, il fait une grosse frappe aussi. Putain, ça passe pas si loin que ça. Il y a un petit rebond juste avant, ça aurait pu faire but aussi. Après, voilà, ce qui est dommage, c'est, alors, je sais pas si Digard fait peut-être des changements un poil trop tard et quoique. Mais le problème qu'il y a, c'est que les blessés. Voilà, ça fait des années qu'on traîne ça quand même à Nice, malheureusement. Atal, bon, on sait plus si c'est un joueur.
Pépé aurait fait du bien, hein.
Atal, j'avais oublié ce joueur, quand t'as prononcé son nom, j'avais complètement oublié.
Ouais, Pépé, il est blessé un match sur deux. Voilà, à chaque fois, on a des blessés qui viennent et qui reviennent. Le bon point, quand même, malgré tout, c'est la saison dans sa globalité de Boudaoui, qui est quand même un excellent joueur, hein, clairement, et qui, lui, traînait beaucoup de blessures comme Atal. Aujourd'hui, il revient très bien. Mais voilà, là, il va falloir, au match retour, mettre énormément d'intensité et leur faire très mal et arrêter de vouloir gérer ou en tout cas faire semblant de gérer.
À chaque fois, t'as raison, Quentin, à chaque fois que Nice a voulu gérer, même en championnat, ils se le sont pris dans la tête. Je comprends pas que ça continue.
Je vous dis que gérer, ça veut dire être conscient de ce que tu fais. Moi, je vous dis que c'est parce que l'équipe.
Je suis pas d'accord.
L'équipe ne le fait pas exprès. C'est parce qu'elle n'est pas capable encore. Et c'est pour ça qu'en championnat, elle est dans la position qui est la sienne aujourd'hui. Elle n'est pas encore capable de maintenir une pression constante et une implication totale sur 90 minutes.
Moi, je pense qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, mais
je pense qu'ils ont le physique pour le faire. Visiblement, ça ne se voit pas. Moi, je ne crois pas. Je suis prêt à demander aux joueurs et à Digard. Je ne crois pas que quelque chose soit conscient dans ce que vous appelez la gestion. Je pense qu'il y a un défaut de constance. C'est pas pareil.
Quentin.
Je sais pas. Alors, Daniel, permets-moi. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est peut-être pas le côté gestion des émotions ou de moments d'un match, mais c'est plus la peur de s'en prendre, en fait. Le sentiment naturel
C'est pas du tout la même chose.
C'est un peu entre les deux. Je pense qu'on est pas loin de la vérité entre les deux. Regarde à Nantes. Je sais pas si t'avais suivi ce match. On fait peut-être le meilleur match de notre saison, étonnamment, à Nantes comme à Marseille. À Nantes, on mène deux fois au score. On prend pas une action. On est excellent dans le jeu. Et les deux fois où on mène au score, les deux fois on recule un peu, on sait pas ce qu'on fait, on s'arrête de jouer. Donc je suis pas sûr que ce soit volontaire, effectivement, comme tu dis, mais c'est pas non plus une volonté absolue de tout arrêter. Tu
après
vois,
contre Nantes, Quentin, excuse-moi, peut-être rafraîchis-moi la mémoire, mais il me semble que contre Nantes, avant de prendre les buts, il y avait eu 2-3 contre-attaques des Nantais qui pouvaient mettre les Niçois dans le doute.
Ouais, on jouait notamment très haut, mais...
avec Blas sur son côté là. Il me semble.
Oui, on jouait très haut.
Alors ça te fait douter.
On jouait très haut.
Ouais, et ça peut
très,
te faire douter.
Haut, mais le problème, c'est qu'on est.
Mais ce soir, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien à partir du moment où ils se sont mis à reculer. Il n'y avait même plus une contre-attaque des Ballois. C'est ça que je reproche.
Ouais, on était un petit peu entre les deux. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais. Je ne sais pas si tu as vu les attitudes de Dante. Plusieurs fois, il ne savait pas s'il fallait allonger, s'il fallait jouer court. On était à chaque fois entre les deux et c'est jamais bon. Ça, on ne sait pas faire. Donc voilà, au match retour, on n'est pas mené, il y a 0-0. Du coup, au match retour, vu que le but à l'extérieur, ils ont eu l'incroyable idée de l'enlever. Donc, il y a 0-0, c'est tout est à refaire, mais il va falloir mettre énormément d'intensité comme en fin de première période et surtout voilà, ne pas ni gérer entre guillemets ni s'arrêter de jouer quand on mène, c'est surtout ça.
Est-ce que faut quand même pas oublier que Bâle c'est quand même aujourd'hui le 6e du championnat suisse. Bon, plus l'équipe que c'était quand même.
Après,
je sais pas. Bon, 2-2, ok, quart de finale, l'extérieur.
Mais attends, l'adversaire, c'est quand même assez faible. Ah oui, non, mais si tu le places dans un contexte plus global de foot européen, quand tu vois les 20
balles de la Champions League,
quand tu vois les 20 premières minutes, les 20 premières minutes du match, tu te dis attends, donc Nice, on va dire, c'est en position au classement, c'est équivalent de Bâle en Suisse. Si vraiment notre football est supérieur au championnat suisse, tu fais pas les 20 minutes que tu fais où tu te fais promener avec deux mecs qui, dès qu'ils accélèrent, mettent le feu dans la défense niçoise.
Nice a eu beaucoup de mal.
Sans parler du premier but qui est d'une naïveté, une erreur de défense, ballon en profondeur, un mec qui part comme ça dans le dos, ça se termine par une faute.
Ça se termine par
une faute d'une stupidité sans nom qui donne le péno. C'est-à-dire, si tu, là, s'il faut avoir un regard critique sur la performance parce que l'adversaire n'est que le sixième du championnat suisse, ah oui, là, c'est pas reluisant pour Nice et notre football, ça, c'est certain.
Quentin, oui, tu voulais rajouter un truc?
Non, je disais surtout Daniel pour le premier but. Regarde, enfin c'est malheureux, on va pas lui en vouloir. Mais Amraoui couvre jamais sa ligne défensive. Donc t'as beau essayer de bien défendre ou gérer un temps fort adverse, quand t'en as un de tes gars qui couvre d'un mètre en hors jeu, c'est tout de suite compliqué. Après voilà, je trouve quand même si on doit retenir quand même beaucoup de positifs, c'est qu'à 1-0, on s'est pas du tout affolé, on est quand même resté très calme et c'est venu.
Il y a surtout la réaction.
De mettre nos jeux en place.
1-0, il y a surtout cette réaction et à partir de là, à partir du moment où Nice a pris le premier but, là on a vu une autre équipe de Nice beaucoup plus présente, beaucoup plus compacte, beaucoup plus de pressing, en jouant beaucoup plus haut et comme par hasard qui a marqué des buts. Et c'était beaucoup mieux parce que le début de match, franchement, il est cata. Jusqu'à la 35e minute, c'est cata.
Quentin, merci beaucoup.
Ouais, merci à vous les gars, bonne soirée.
Bonne Salut, soirée. Petite évaluation, les gars. Vous avez parlé de Mofi et de Laborde. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des joueurs à citer. Le jeune Ndaï Chimier, là, qui est un joueur qui est arrivé un peu discrétos.
Il a joué au tout début dans un rôle un peu hybride, c'est-à-dire qu'il était en milieu de terrain, il était sentinelle, il défendait en 4-1-4-1, il était seul sentinelle de la défense.
Ouais, c'est sa position.
Lorsque ça débordait du côté droit de Nice, c'était lui qui rentrait dans la défense. Alors il sait le faire parce que c'est un défenseur, il sait bien faire le truc, mais il a été intelligent dans sa gestion. Ensuite, Digard l'a remis dans un rôle beaucoup plus facile. C'était un rôle hybride pour lui, compliqué à gérer, mais qu'il gérait quand même assez bien, j'ai trouvé.
Dans un instant, on conclut le débat niçois avec vous au 32-16. Ensuite, on passera aux autres matchs, notamment le 2-2 entre Manchester et Séville, puis le reste de l'actu du jour, encore dominé aujourd'hui par l'affaire Galtier et ses évolutions de ce jeudi soir. À tout de suite, on est là jusqu'à minuit.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. On analyse le quart de finale aller de Coupe d'Europe, de Conference League, de l'OGC Nice 2-2 à Bâle. Match retour jeudi prochain. Moi, je lance, on va accueillir Hugo dans quelques instants, mais enfin, j'aimerais quand même lancer un appel au public niçois. Quart de finale de Coupe d'Europe, c'est pas arrivé à Nice depuis les années 50.
Quoi, t'as peur que ce soit vide?
J'espère que le stade sera plein jeudi prochain, quoi.
Mieux qu'à Bâle, parce que là, c'est Bâle fait 22 000 sur un stade de 35, je crois, ce qu'ils ont annoncé.
Oui, et puis en plus, le public fait la gueule à Bâle, parce qu'il faut une année un peu moyenne.
Exactement, non.
J'espère que jeudi prochain, il y aura du monde.
Bien sûr, il faut être absolument. C'est important de passer. C'est comme ça aussi que t'apprends dans les Coupes d'Europe. C'est comme ça que tu forges une ADN. Ça fait longtemps que Nice n'a pas fait. Ça fait combien de temps que Nice n'est pas allé en quart de finale?
Les années 50.
Ouais. Donc non, c'est important. Il n'y a pas de petite Coupe d'Europe et tout. C'est un match très très important pour le club niçois.
Hugo, bonsoir Hugo.
Bonsoir à tous, ça va?
Hugo, supporter niçois, tu vas au stade jeudi prochain?
Oui, sûrement, oui.
Bon, amène les copains. Hein.
Ouais, bien sûr. Non, on va tous y aller. Bah, je pense qu'il sera pratiquement plein.
On en parle. Il y a de l'engouement, t'entends ça.
Oui, bien sûr. Parce que on peut critiquer tout ce qu'on veut sur la coupe, dire que c'est la coupe des handicapés ou comme ça.
Non.
Au final, moi, je serais si on la gagnait, je serais hyper content.
J'espère bien. C'est une coupe d'Europe qui a la dimension.
J'espère que Tunis sera dans la rue avec Christian Estrosi au premier rang.
C'est une coupe qui a la dimension du club.
Carrément.
Tout à fait
honnêtement, moi je suis très content de jouer cette coupe parce que c'est un bon tremplin pour si on arrive à.
Bien sûr, c'est là que tu apprends à gagner.
Qui on mettrait qui dans la parade de la victoire sur la parade des Anglais, tu vois, comme niçois célèbre?
De quoi?
Dominique Poulain, Christian Estrosi.
Eric et Jacques Médecin.
Jacques Médecin, ouais. Ah. Le plus logique.
Là, je crois que la lignée s'est arrêtée avec Jacques Médecin, Punta del Este. Bon, je sais pas. Non, mais c'est vrai, il y a pas trop de vous avez pas trop de people niçois fans de
ouais,
foot
qui vont bah, Alain Marchal, forcément.
Alain Marchal. Ah oui, comment j'ai pu l'oublier. C'est le people de Nice.
C'est celui qui dirige le char du carnaval, quoi. Sinon, il y a qui d'autre? Dites-nous un peu des connus niçois.
Des connus niçois?
Ouais.
En dehors du sport?
Ouais, ouais, voilà, des niçois qu'on met sur la parade, quoi.
Ouais, si, moi, la tête de Maurice Cohen, ça me ferait rire de la mettre dessus.
Ah, et Maurice Cohen est toujours là. Enfin, qui a fait un passage sympa. Ouais.
Eric Roy, mais.
Ah, bah non, Eric Roy, ça marche pas.
Il est à Brest, le dérangez pas, hein.
Non, on peut lui mettre une parade où il nous rend les sous qu'il nous doit, quoi.
Qui fait Eric Roy?
Oui, oui.
Ah bon,
j'ai pas au courant.
J'ai raté une étape, là, en l'occurrence. Moi, je propose Georges Kirillo, qui est niçois, quand même, faut le savoir. Hein,
Mais je ne savais pas.
Bien sûr.
Je ne savais pas.
Et puis, la célèbre Mado la niçoise, qui est toujours ses spectacles.
Oui.
Denis Fabre aussi, adjoint à la mairie de Nice. Ça marchait, Denis Fabre? Gilles Vessière, arbitre niçois.
Gilbert Beco, mais il n'est plus là.
Et Gilbert Beco, ouais, ça marche pas.
T'as pas nous le ramener, ça.
Bon.
Il pourrait y avoir Daniel Bravo, il a une maison dans le coin.
Daniel Bravo, on pourrait le mettre aussi.
Ah non, Daniel Bravo, tu le laisses tranquille, il est devenu parisien après.
Et surtout qu'il est toulousain à la base, Daniel Bravo.
À la base, en plus, ouais, voilà. Donc, il est parisien.
On est encore dans son cœur.
Bon, ça manque un peu de people.
Dick Rivers.
Ah bien sûr, mais Dick il est disparu Rivers. Malheureusement Dick Rivers.
Il est mort Dick Rivers?
Ah oui, bien sûr.
Non, il n'est pas mort Dick Rivers.
Enfin, Daniel.
Dick Rivers?
Bah oui, Dick Rivers, qui venait régulièrement en grande gueule, grand pote d'Alain.
Excuse-moi, ça m'avait échappé. Je savais pas. Pardon.
Bah, on pense à lui.
Il paraît que Nekfeu vient aussi de Nice.
Nekfeu, il vient de la Trinité, lui. Il est à côté de chez moi, lui. Voilà. Mais bon, jusqu'à ses 6 ans, il est vite passé à autre chose. Non, mais Michael Jackson, avec le maillot de Nice, la photo où il a le maillot de Nice.
Non, mais là, pareil, ça va être compliqué de le faire venir. Il viendra avec Dick Rivers. Ah, Sophie Duez est née à Nice. Sophie Duez, la scène dans Marche à l'ombre, ça a fait mon adolescence.
Hein. Jennifer Bartoli, je crois qu'elle vient de Nice aussi. Michel Larocque.
Michel Larocque, absolument.
Ouais. On propose Albert Spadjari, mais là aussi c'est foutu.
Je ne sais pas si ça compte, mais Angelina Jolie a accouché à Nice.
Oh.
Ouais. Bon, allez, arrêtons la blague. Revenons un peu sur le match. Hugo, qu'est-ce que t'as aimé, toi?
Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, aimer la finition de Mofi, quoi. C'est le genre de match où il faut qu'il. Enfin, plus il plante, plus son niveau il va monter. Donc c'est bon pour lui, surtout avec son but de fou. Ce que j'ai moins aimé, je crois que c'est honnêtement le pire match.
Top Dante. On va écouter Dante, tiens, en direct. Mais après on te reprend, Hugo, c'est en direct.
Et vous faites rejoindre. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de gestion en deuxième période?
Bah oui, non. C'est clair qu'en deuxième mi-temps, on a donné vraiment l'impression qu'on dominait vraiment le match. Mais ça, c'est en Coupe d'Europe. Ça, c'est quand tu te relâches en seconde et sur le petit détail, tu peux pas et ça paye cash. Donc, c'est dommage. Mais on rentre à Nice quand même avec la tête haute et très positive pour le match retour.
On en parlait avec le coach tout à l'heure avant le match. Le groupe n'a pas été affecté par ce qui s'est passé ces dernières 24 heures avec ce qu'on appelait l'affaire Galtier sur le terrain. Vous ne l'avez pas ressenti?
Non, se concentrer à 100% sur le terrain parce que je pense qu'on. On joue un match pas que pour le GC Nice, on joue un match pour la France, il ne faut pas oublier. Donc on joue très très gros, on a une grosse responsabilité. Ce serait bien que tout le monde soit au courant de ça aussi et qu'il puisse nous aider parce qu'on a un groupe très très jeune et à nous aider à rester très très focus sur le terrain.
Il reste à terminer le travail jeudi prochain à domicile avec votre public. Au-delà de ce score de 2-2 qui peut paraître un bon résultat, il faudra impérativement vous imposer.
Je pense que il paraît pas, c'est un bon résultat. Il faut penser comme ça, il faut rester positif. Malgré qu'on voulait gagner, on ne se satisfera jamais d'un match nul, n'importe contre qui, mais... C'est comme ça, le foot, on se trompe parfois, on voit des équipes, on se dit ouais, on est favori. Il faut faire attention, il faut respecter, il faut rester humble, parce que la Coupe d'Europe, ça se joue en petits détails. Ici, on voit le GC Nice encore là, c'est parce qu'on a bien compris ça.
Merci.
Voilà.
Merci.
Pour Dante. Il y a quand même un truc, c'est vrai, sur lequel on insiste assez peu sur cette équipe de Nice. Il a dit qu'elle est très jeune. Digard, on est plutôt positif sur Digard depuis son arrivée, mais enfin lui aussi, c'est un gars qui n'a pas d'expérience au fond, la Coupe d'Europe. Et bon, quart de finale de Coupe d'Europe, quand tu es entraîneur d'une équipe pro depuis quelques mois seulement, pas forcément évident. Donc,
C'est clair. Après, là, pour ce match-là, ce qui a été criant, et moi je l'avais dit que c'était le joueur le plus important de l'équipe, s'il fallait choisir entre garder Thuram ou Todibo, faut garder Todibo, parce que, et là on a vu que dès que son niveau a baissé ce soir, l'équipe défensivement elle en a direct pâti. Bon, à côté de lui, il avait, ce qui va beaucoup changer, c'est le retour de Lautomba, quoi. Retour sûrement, parce que là avec Rosario à droite, c'est trop compliqué à défendre sur le côté droit. Donc c'est vrai que défensivement on a été assez friable sur plusieurs actions, parce que ce qui est pas habituel, hein, parce que nous on est plutôt l'inverse, on est plutôt bon défensivement.
Et la prestation d'Endoy, qu'est-ce qu'on a pensé ?
D'un Endoy, bah bon, c'est pas mal. Hein.
Pourtant, c'est un joueur qui est passé chez vous. J'ai pas vu faire un match.
Je pense qu'il avait pas oublié.
Comme Andy Pelmar, il a fait un bon match, hein, je trouve. Il a fait surtout balle au pied. Il est formé chez nous, lui, carrément. Donc, nos Niçois de l'autre côté, ouais, ils ont fait leur match, ouais, mais ça m'intéresse pas trop.
Endoy, je l'ai pas vu faire un match comme ça avec Nice.
Ah là, il a mis.
Ouais, faut dire qu'il a pas eu la chance non plus. Hein.
Peut-être qu'il était pas les mêmes dispositions.
On l'a pas énormément filé. Oui, déjà il est tombé dans la période de Nice où on était toujours en dilettante, quoi. C'était pas la meilleure période, et surtout on lui a pas filé sa chance. Alors on l'a jamais vraiment mis titulaire sur beaucoup de matchs et tout, donc non, il a l'air de bien s'épanouir là-bas, c'est cool pour lui. Maintenant, j'espère qu'au retour il fera absolument rien, qu'on va le bloquer de sorte.
Parce que dans les contre-attaques, c'est qu'on
pourrait prendre Burger en sandwich surtout.
Ouais, en espérant qu'il soit cuit, quoi. Enfin bref.
Bien cuit.
Merci Hugo.
De rien.
Bonne soirée. Un truc à rajouter sur ce match, les gars, où on a globalement fait le tour.
Je vais juste conclure avec deux noms pour le char après la finale, parce qu'il faut finir un moment. Julien Lepers et Thibaut Leplat.
Ah oui, bien sûr. Et on peut quand même ajouter Alexis Bossetti, torse nu pour les tatouages.
Ah d'accord.
Bah, il sera là, forcément, non ? Il est quand même plus niçois qu'annécien à la base.
Ah oui, quand même.
Il
a déjà passé balle.
Exactement. Et puis après la Fiorentina, on va en parler avec Yoann Crochet dans quelques instants, parce que j'ai quelques témoignages là sur Direct Studio. Tiens, j'ai par exemple Julien qui me dit, moi j'ai regardé la Fiorentina ce soir. Je peux vous dire que c'est pas le même niveau de football.
Ça, c'est sûr que Nice ne sera pas favori. Hein.
On en reparle. Tiens, dans quelques instants avec les drôles de l'âme qui vont nous rejoindre. Avant ensuite d'aborder le reste de l'actu du jour dans l'after. On est là jusqu'à minuit avec vous. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h27, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là, les drôles de l'âme dans quelques instants. Tiens, Didier Digard en direct, on va écouter son analyse après le 2-2.
Je pense que c'est les attaquants, ils ont quelque chose de différent. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, c'est en eux, c'est instinctif.
On parle du but de Bofi, là.
Il a montré que c'était un attaquant de grande classe sur ses deux occasions et ses deux buts, et surtout le deuxième qui est fantastique.
Est-ce que si je vous dis que vous étiez trop dans la gestion en deuxième période, c'est exagéré de ma part ?
Oui, je pense que c'est exagéré. La différence, c'est qu'eux ont beaucoup reculé. Et du coup, forcément, nous, on avait une possession peut-être un peu plus stérile, parce qu'ils ne donnaient pas la place dans leur dos pour leur piquer et pour leur faire mal. Donc, j'ai pas du tout senti mes joueurs, c'est pas du tout l'état d'esprit de mes joueurs de vouloir gérer les choses. Et c'est simplement Ball qui a changé d'état d'esprit, qui s'est mis plus bas et qui nous attendait avec un bloc plus compact.
Il faudra une victoire jeudi prochain à domicile avec le soutien du public pour entrer dans l'histoire du club.
Oui, c'est fantastique. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas mieux que pouvoir réaliser ça devant nos supporters. Donc sincèrement, je pense qu'aujourd'hui c'est un résultat correct, même si on espérait faire mieux. mais c'est surtout un résultat qui nous permet d'aborder ce match avec un état d'esprit ultra conquérant chez nous devant nos supporters.
Merci Didier.
Merci.
Voilà pour Didier Digard. Précision, on reparlera de l'affaire Galtier tout à l'heure, mais Digard a demandé aux joueurs de ne pas réagir aujourd'hui à cette affaire. Voilà. Bon, évidemment, ils sont directement concernés, puisque certains, même la grande majorité d'entre eux, étaient là la saison dernière et ont vécu aux premières loges les tensions entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Je reviendrai tout à l'heure sur ces infos niçoises, parce que Nice matin, on a reparlé, et notamment sur les limitiers de Galtier-Digard. Mais on y reviendra tout à l'heure, parce que ça fait plus partie du dossier Galtier que de la Coupe d'Europe. Au fond. Pour l'instant, on va parler quelques instants des autres résultats du soir avec nos drôles de l'âme qui nous rejoignent. Et Johan Crochet est là. Bonsoir Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
Fred Hermel est là également. Salut Fredo.
Hola chicos.
Et Julien Laurence, salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien.
On va parler de votre match Manchester-Séville dans quelques secondes, mais d'abord un mot de la Fiorentina qui est le potentiel adversaire de Nice désormais, parce qu'on ne voit pas comment ils pourraient ne pas se qualifier après avoir gagné 4-1 à Poznan ce soir. T'as vu une belle Fiorentina, Johan?
Ouais, bah je vois la Fiorentina depuis l'arrivée de Vincenzo Italiano la saison passée. C'est une Fiorentina qui joue très très bien, extrêmement bien, qui a eu des gros problèmes de finition cette saison, en début de saison, parce que ni Cabral ni Jovic finalement n'arrivaient à conclure les nombreuses occasions que la Fiorentina collectivement parvenait à créer. Et puis là, depuis quelques semaines maintenant, Cabral a accéléré, a marqué des buts, a pris ce poste de titulaire, clair. Et les autres joueurs autour en plus deviennent aussi décisifs. Je pense à un Jonathan Ikoné par exemple, qui faisait beaucoup de différence dans les 30 derniers mètres, mais qui était vraiment très maladroit dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Et c'est ce que lui reprochait un peu tout le monde en Italie. Et là, depuis février, je trouve qu'on est sur un joueur beaucoup plus concret, beaucoup plus décisif. Donc franchement, la Fiorentina, ils mettent quand même beaucoup de cartons dans cette Conference League. Mmh. Et ils marquent beaucoup de buts. C'est une équipe qui joue vraiment bien au ballon, qui a des beaux joueurs, des bons joueurs.
Avec Sofiane Amrabat, hein, je le rappelle, qui avait été très bon à la Coupe du Monde, rappelez-vous, et qui est toujours, évidemment.
Ouais, qui est toujours bon, mais enfin, franchement, moi, j'aurais du mal à en sortir vraiment un, quoi, parce que, en plus, il y a du banc, quoi. C'est ça qui, dans cette équipe, franchement, quand vous regardez les joueurs qui rentrent aujourd'hui, il y a vraiment des joueurs de qualité. Jovic, Sotil, Ikoné, Barak. Enfin, voilà, vous avez quand même des joueurs de qualité qui étaient sur le banc ce soir. Donc, non, c'est vraiment à la fois une très belle équipe, une équipe qui est en vraie phase de digestion quasiment, parce que ils ont eu du mal à tout assimiler en début de saison, et là vraiment on sent que ça y est, ils ont tout capté, ils ont tout pigé, et maintenant ils récitent vraiment leur football, donc c'est vraiment agréable à suivre.
Reste avec nous pour parler de la Roma dans quelques instants.
Je voulais juste demander à Yo. Il se place aujourd'hui avec la victoire et leurs différentes prestations que tu disais excellentes en Coupe d'Europe. Il se place en tant que favori pour toi?
Il reste plus grand monde. Hein.
Non, il reste plus grand
déjà,
monde.
Déjà,
après
le prochain match, peut-être contre Nice ou Bâle. Enfin, c'est
ouais,
sûr,
c'est ça.
Il y a West Ham quand même. Hein. West Ham,
ouais, c'est ça.
Même si West Ham brille pas en première ligue cette année, mais.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste quand même une équipe sur des matchs de coupe. West Ham, je pense que ça peut être quand même très fort.
J'ai pas vu la Fiorentina.
Ils ont fait un
West
partout. Ils m'ont pas. La Gantoise aujourd'hui.
Ouais, ils m'ont pas. Franchement, West Ham. J'ai pas vu la Fiorentina, hein, mais j'ai pas trouvé West Ham extraordinaire.
Bon, à suivre. On va parler de la Roma dans quelques instants. Le match un peu fou ce soir, c'était donc United-Séville.
Alors, je croyais que Johan allait nous donner la news là.
Laquelle?
Bah, du classement
Bah, avec les matchs de ce soir, en fait.
C'est quand même une info importante.
Sur la projection 2024, les Pays-Bas piquent la 5e place à la France.
Mais voilà. C'est pas rien. Non?
Oui, ça avec les matchs de ce soir.
Ça vous laisse bouche bée.
Oui, oui, non, juste avec les matchs de ce soir.
C'est comme ça, là.
Il faudra voir après la semaine prochaine qui se qualifie.
C'est les qualifs qui vont surtout compter, là.
Ouais, bah, ça va compter en plus, mais imagine, Nice se qualifie pas et les clubs néerlandais se qualifient pas. Personne ne marque deux points. Et il se passe quoi en 2024?
Ouais. Voilà.
Ouais, mais c'est pas fini.
Ah non, non, c'est pas fini. Je dis bien ce soir, avec les matchs de ce soir, ouais, en projection 2024, oui, les Pays-Bas piquent la cinquième place.
On va être.
Nice aussi.
On va être, comment dirais-je, à fond derrière la Roma, match retour, là, pour éliminer Feyenoord. Et allez, Mourinho.
Chesney, t'es au courant, ils en parlent, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un problème.
Ça va mieux.
Dans
il
le
était.
Match Sporting, ouais.
Une alerte.
Il a parlé à la fin du match, en fait, il a eu petit malaise, il se sentait pas bien. Et donc, il a eu très peur parce que c'était au niveau de la poitrine. Et ils l'ont calmé tout de suite sur le terrain. Il a été remplacé. Il a fait tous les examens au centre médical de l'Allianz Stadium. Et tout va bien. Tous les examens sont OK. Et lui avait vraiment retrouvé le sourire à la fin du match. Donc ça, c'était vraiment positif.
J'ai fait peur.
Okay. United Séville. Julien, comment United a réussi à se faire rejoindre?
C'est une bonne question. Très bonne question, parce que jusqu'à la 83e minute, ils étaient en contrôle total de cette rencontre. Ils auraient dû marquer plus que les deux buts qu'ils ont marqués dans les 20 premières minutes par Sabitzer, avec un Anthony Martial impliqué dans les deux buts, notamment dans le deuxième. Et puis après, il y a la blessure de Raphaël Varane qui sort à la pause, déjà qui leur fait mal parce que Harry Maguire entre en jeu, et ben Harry Maguire, c'est Harry Maguire. Ensuite, il y a la blessure de Lisandro Martinez qui fait mal, il y a Bruno Fernandes.
Tellement c'est grotesque ou pas?
Je pense que je sais pas s'il fait exprès, mais c'est pas un bon joueur de foot, quoi. Voilà, mais tu t'as vu la différence en seconde période. Bruno Fernandes qui avait pris un carton jaune en première période, qui donc le suspend pour le match retour, est sorti aussi. J'ai pas trop compris.
De celui qui l'a vendu 84 millions.
Non, mais surtout c'est pas trop dans la performance de ce soir ou cette saison, mais ça reste un joueur important dans quand même
c'est avec le capitaine. Enfin, ce soir, c'est le capitaine à la Coupe du Monde.
Ouais, mais je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt de le sortir. En fait, Ten Hag dit que c'est parce qu'il avait déjà un carton jaune, je voulais pas qu'il en prenne un second. Peut-être, mais il permet aussi de contrôler le match dans un sens. Il a joué plus bas ce soir, il a plutôt bien joué plus bas, sa bizarre joue plus haut, ce qui lui a permis de marquer les deux buts. Je trouve qu'ils ont perdu le contrôle à cause des blessures, c'est sûr, mais aussi à cause des choix un peu, j'ai pas.
Ah, on a perdu Julien.
Après, bon, je crois qu'on parlait même plus du même joueur à la fin.
On va, c'est ça. Lui, il parlait de Bruno Fernandes, voilà. Et toi de Maguire.
Maguire. J'ai pas coupé, je sentais qu'il y a un problème de communication.
Bon, bah, du coup, ça a coupé tout seul.
Voilà.
Une coupure naturelle. Ouais. Fred, t'es assez dur avec Séville depuis le début de la saison. Juste au titre.
C'est pas moi qui suis allé dur.
Vu ce qu'ils font en Liga.
Bah, moi, je pense que ce soir, Séville assurait son maintien en première division espagnole.
Ah, carrément.
Bah, c'est-à-dire que l'équipe, quand vous voyez le 11 de ce soir, c'est un 11 qui doit jouer le top 5 du championnat espagnol. Sauf qu'il y avait un vrai problème mental. Je pense que Sampaoli a pas aidé. Franchement, ils sont revenus ce soir au courage. Parce que les deux buts contre son camp, de Manchester United, parce qu'ils égalisent sur deux buts, contre leur camp, c'est au courage aussi. Parce qu'il faut bien que Navas y croit.
Ils finissent fort.
Ils auraient pu gagner.
Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu juste avant l'égalisation, il y a eu un arrêt extraordinaire du gardien de Manchester sur sa ligne, c'est ça, sur sa droite. J'ai pas vu tout le match, mais il a sauvé.
Et donc, ça veut dire que cette équipe avait blocage et que ce soir, elle a montré qu'elle avait du courage, qu'elle croyait encore en son avenir, et que franchement c'est une, enfin Lionel, on dit souvent en Espagne que le football c'est dans la tête que ça se passe.
Non, bien sûr,
c'est un état d'esprit, un état de animique.
À Séville, le retour, tu dis danger pour Manchester?
Bah ouais, franchement,
c'est
moi,
ouvert
surpris.
Quand même, non, franchement,
c'est très ouvert. Non je pense que Manchester United reste réellement favori, d'autant plus que Séville, il y a un match essentiel pour le maintien à Valence samedi soir.
C'est là, ce week-end.
Dimanche soir. Ouais, c'est ce week-end. Ouais. Mais franchement, au niveau de la tête, du mental, ce qui s'est passé ce soir, je pense que Séville retrouve sa force mentale et que Séville va rester en première division. Et c'est le plus important. Ce soir, c'est un match de plus. L'objectif, c'est pas de gagner l'Europa League. Hein. L'objectif, c'est pas de descendre en deuxième division. Et ils sont en train de faire un beau travail. Moi, je trouve que le football qu'on a vu ce soir, notamment vers la fin, c'est pas le football à Sampaoli. On essaye de jouer un jeu pour lequel les joueurs sont pas préparés. C'est un jeu beaucoup plus direct où on fait beaucoup plus de centres, moins de tout touche babale. Et c'est ce qui convient à une équipe qui est en convalescence. C'est retrouver un football assez simple. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'est que physiquement, cette équipe de Séville, elle va beaucoup mieux qu'avant sous l'air Sampaoli. Et ça s'est vu dans les dernières minutes de cette rencontre. Donc, c'est quel que soit le résultat la semaine prochaine, ce match extrêmement positif pour l'avenir de Séville en Liga.
Julien est de retour. Julien, oui, tu parlais de Bruno Fernandes.
Ouais, je parlais de Bruno Fernandez. Je sais pas jusqu'où je suis allé avant que ça coupe, mais je disais que pour moi, il y a les blessures. Ouais, il y a les blessures et les choix de Ten Hag. J'ai pas tout compris en seconde période. Après, il y a beaucoup de réussites aussi, comme l'a dit Fredo sur les deux buts contre leur camp de
mais qui sont provoqués. Mais qui sont provoqués. Enfin, je veux dire, il y a l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a non, mais c'est l'énergie de Séville.
Sa tête, elle vient chez moi, sa tête. Elle va même pas cadrer.
Non, mais c'est pas provoqué. Ce que je veux dire, c'est que parce que Séville, physiquement, était là et a cru jusqu'à la fin que ses buts ont été. C'est vrai que c'est très chanceux, mais la chance, ça se provoque. Séville n'était pas résigné. Tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est vrai, tu as raison. Ouais. À ce niveau-là, tu as raison. Parce qu'après, c'est surtout le deuxième. Encore le premier, c'est un bon centre de Jesús Navas. Et je pense que Malasia fait une erreur de placement.
Mais le deuxième, attends, il vise quand même le nez de Maguire. C'est bien joué.
C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Le jeu en triangle est pas mal. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu. Pour moi, Ten Hag est un peu fautif quand même sur ce match nul à la fin et d'encaisser ses deux buts. Je trouve pas que ses remplacements ont beaucoup aidé son équipe.
Pour conclure, Johan, rassure-nous, dis-nous que la Roma va le faire et va sauver le foot français la semaine prochaine.
Difficile, s'ils n'arrivent pas à marquer un but avec les occasions qu'ils ont, ça va devenir compliqué. Hein. C'est ce que déplorait Mourinho ce soir en conférence de presse. C'est voilà, quand vous regardez le match de ce soir, que Feyenoord est un jeu plus élaboré, léché, moderne, dynamique, tout ce que vous voulez, ça on le sait. On n'a pas attendu le match de ce soir pour le voir. Mais attendez, il y a un pénalty sur le poteau, il y a une tête sur la barre qui rentre pas pour 2 cm, il y a El Shaarawy seul au point de pénalty qui ouvre son pied et qui la met largement à côté. Alors il termine avec quasiment 2 expected goals hein, quand même ce soir. Le Feyenoord, ils sont à 0,5 hein. Et pour autant ils n'arrivent pas à marquer quoi, c'est assez improbable. Rendez-vous compte que la Roma a joué son 42e match de la saison ce soir. Ils ont fait 26 poteaux en 42 matchs. 26 poteaux, vous imaginez la saison, hein. la saison que ça peut être avec quelques poteaux et transversales de moins. C'est, je veux dire, c'est aberrant, c'est record dans les 4 grands championnats européens plus Ligue 1, évidemment. Autour de barrage, ils avaient perdu aussi à l'aller à Salzbourg et ils avaient réussi à renverser Salzbourg au match retour. Mais très sincèrement. Avec Dybala blessé, qui est sorti blessé, encore une fois, blessure musculaire évidemment, comme toujours avec l'Argentin. Abraham qui a une petite luxation à l'épaule, qui est sorti blessé. Si en plus tes meilleurs joueurs qui ont déjà du mal à marquer ne seront pas là match retour et c'est les remplaçants des meilleurs joueurs qui n'arrivent déjà pas à marquer qui vont devoir marquer. Bon, ça devient une équation un peu complexe. Donc en Italie, on croise un peu les doigts, mais c'est pas simple. Vraiment, la situation de la Roma depuis quelques semaines, ça joue pas bien. Et quand ça a des occasions, ça marque pas. Donc, difficile.
Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine, hein, évidemment, avec une nouvelle semaine de Coupe d'Europe ensemble. Bonne soirée à tous.
Ciao, ciao.
Dans un instant, ciao. Nous, on revient sur l'actu française et les développements du jour de l'affaire Galtier. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Et Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. Alors, le reste de l'actu est dominé toujours par l'affaire Galtier. Alors, pas mal d'évolutions aujourd'hui. Précisons que de nombreuses personnalités du football sont venues au soutien de Christophe Galtier. Quelques-uns de ses anciens joueurs, comme Bourac, Fonte, son ancien adjoint Maciel à Lille. Quelques-uns de ses amis à Marseille également. Florent Germain nous a fait remonter tout ça. Précisons également à Nice que Didier Digard a fait part de son expérience douloureuse avec Christophe Galtier. Une nouvelle fois, Nice Matin, je le rappelle, l'a expliqué. Galtier aurait tenu des propos violents sur les convictions religieuses de Didier Digard lorsqu'ils travaillaient ensemble à Nice. Digard a même souhaité démissionner, mais Julien Fournier, l'ancien directeur sportif, l'en aurait dissuadé. Voilà, révélation de Nice Matin. Donc, je rappelais tout à l'heure que Digard a expliqué aujourd'hui aux joueurs qu'il ne fallait pas qu'ils s'expriment en restant concentrés sur le match. Des joueurs qui apparemment sont remontés contre le témoignage de Bourak Yılmaz et José Fonte. Voilà. Donc, quand cette information arrive, ça laisse sous-entendre qu'ils ne sont pas d'accord hein, avec Bourak et Fonte qui ont donc soutenu Galtier, pour être tout à fait clair. Ce soir... on apprend que l'avocat de Christophe Galtier va porter plainte contre Julien Fournier, auteur de l'email en question, et contre deux journalistes, dont Daniel. Donc plaintes qui vont être déposées. Alors nous évidemment dans l'after et sur RMC, on tient à rappeler qu'on fera toujours notre travail comme toujours avec une sérénité totale et sans a priori, qu'on continuera d'ailleurs à donner la parole aux deux camps évidemment. Et puis d'ailleurs, je me permets de rappeler que le racisme est un délit et que la loi oblige toute personne ayant connaissance d'actes ou de paroles racistes à les dénoncer, hein. Donc voilà, la mise au point qu'on voulait faire quand même ce soir suite à cette plainte. Donc voilà les évolutions du jour, Daniel. On peut en parler au 32-16 chez Capdel et déjà là pour le faire.
En parler. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire. Je commence à être habitué. Je suis dans une période, donc dans ces cas-là, comme on dit, la justice fera son travail et je suis absolument serein.
Abdel est là au 32-16. Salut Abdel.
Maintenant, juste avant, Abdel, et je dis évidemment, je suis serein. Et il y a des gens qui commencent à s'exprimer sur l'affaire. Et je pense que ça n'est pas terminé. Et je pense que d'autres personnes.
Il est inéluctable que des joueurs s'expriment bientôt.
Il est inéluctable que bientôt des joueurs vont finir par parler et qu'il y aura un échange autour de ce qu'on appelle l'affaire Galtier désormais. Voilà.
Abdel, bonsoir.
Ça ne va pas en rester là, c'est pas possible.
Bonsoir à tous.
Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir sur cette histoire?
En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, j'ai vu la décla de Yacine Benzia, en fait.
Qui a eu Galtier comme entraîneur à Lille.
En fait, c'est un truc de ouf. Parce que,
Rappelle juste ce qu'il a dit pour ceux qui ne savent pas, Abdel. Donc, il a publié un petit message sur Instagram. C'était en gros la vérité éclatera. Enfin, ça voulait dire ça, en gros.
C'est
lui qui parle d'ascenseur et d'escalier.
Oui, l'ascenseur et l'escalier, exactement.
La vérité prend l'escalier. Ça met plus de temps.
Ça met plus de temps que voilà. Il met un hashtag.
Hashtag
Ramadan Gate. C'est énigmatique, un peu comme les messages de Benzema. Les mecs, ils auraient quand même gagné à être clairs.
À un moment, il faut être un petit peu plus clair et quand on doit parler, on parle et puis on dit les choses et on arrête de faire des énigmes. J'aimerais quand même rappeler que le soir où on en a parlé, s'il y avait bien une chose qui nous gênait profondément, et je crois qu'on l'a dit ce soir-là et que ça n'a pas été forcément bien compris parce que dans la foulée, j'ai pris une flopée d'insultes à cause de ça. Mais s'il y avait bien une chose qu'on ne voulait pas, c'était que derrière, ça tourne à la chasse à l'homme, aux menaces et à tout ce qui s'est passé. Alors on va me dire, oui, mais gros malin, tu veux pas que ça arrive, mais il fallait se douter que ça allait arriver. Oui, mais en même temps, si on dit pas les choses, après on reproche de pas dire. Mais évidemment que ça, c'était quelque chose qui nous mettait mal à l'aise. Et s'il y a un point qu'on a voulu dire ce soir-là, c'est celui-là. Il me semble qu'on l'a dit c'était mardi. Voilà, et qu'on ne voulait pas que ça vire comme ça. Mais malheureusement, il fallait s'en douter. Le lendemain, il y a eu des menaces et il y a eu des choses importantes, protection et compagnie. Quoi.
Ah, évidemment que ça, c'est insupportable.
Voilà.
Abdel, tu peux continuer.
Vas-y, Abdel. Pardon.
Daniel m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Oui, en effet, au bout d'un moment, les énigmes là, du perforat, ça commence à devenir gonflant. Si vous avez un truc à dire, dites-le. Parce que là, l'histoire des escaliers et tout ça, franchement, c'est une vérité. C'est comme de sacrées marches, hein, quand même, leur vérité à eux. Parce que... Mais du temps arrivé, quand même. Hein.
Exactement. Alors, tout le monde appelle les joueurs à s'exprimer. Hein. Nos consultants, par exemple, sur RMC, l'ont fait. Genesio a dit ça aussi aujourd'hui, tout en soutenant Galtier. Voilà. Et puis, on attend toujours la position du PSG, où c'est, en gros, pour l'instant, le blackout complet. Demain, normalement, il devrait y avoir une conférence de presse. On va voir ce qui va se passer dans cette conférence de presse. Et Galtier devrait donc s'exprimer lors de cette conférence de presse.
Ce qui est certain, Lionel, c'est que je pense que pour Galette, sans rentrer dans les... Parce que j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est pas dit. Mais pour Galette, dans sa carrière, il y aura un avant et un après à partir de mardi soir. On le verra plus du tout pareil. Ça, c'est évident.
Tu penses qu'elle va poursuivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive maintenant?
Quoi qu'il arrive. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que il ait gain de cause ou quoi, de toute façon, il va traîner ça comme un boulet durant toute sa vie. C'est évident.
Bon, bah, écoute,
malheureusement.
Malheureusement,
je sais pas, mais pour l'homme lui-même, quoi, c'est voilà. Après, moi, j'ai jamais connu, honnêtement, Galette en tant que raciste, personnellement.
Jamais. Mais après, il y a peut-être des ça peut dériver, il peut y avoir des choses, je sais pas. Mais voilà. Mais ça, c'est certain qu'il sera plus le même homme. Ça, c'est sûr. Comme certains joueurs peuvent ne pas être les mêmes aussi s'ils sont traités, maltraités.
Moi, je suis pressé. Moi, je suis pressé qu'on avance parce que encore une fois, j'en ai parlé à la fin de mon intervention mardi. Je pense que ça ouvre une porte à énormément de problèmes qu'il y a dans le foot français, de thèmes qu'on cherche à aborder nous dans l'After depuis des années et qui sont très délicats. Là, il y a une porte qui a été ouverte. Au-delà du fait dont on a beaucoup parlé, j'aimerais qu'on puisse lancer d'autres débats autour de ça.
Il y a plusieurs portes, Daniel, même.
Plusieurs portes, effectivement.
Parce qu'il y a différents sujets entre la religion, entre les agents,
la construction d'un
les entraîneurs qui essayent de placer le joueur qu'ils ont avec eux, etc.
Et ce sont des thèmes qu'en plus, on a beaucoup évoqué dans notre livre avec Abdelkrim. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que ce fait éclate là. Mais effectivement, je suis pressé qu'on sorte de l'actu chaude de ça pour pouvoir aller plus loin et étudier en profondeur ce qui s'est passé à Nice l'année dernière.
Abdel, un dernier truc à rajouter ?
Oui, bah par contre, j'ai peur de la porte que ça pourrait ouvrir en fait, de ce qu'il y aurait derrière. Des débats qu'il y aura.
Bah, il vaut mieux, Abdel, je crois qu'il vaut mieux parler dans la vie.
Ouais, mais le problème, est-ce qu'on est prêt à ça?
Nous, on va faire en sorte que, parce que nous, on s'est jamais retenu. Nous, on s'est jamais retenu de rien dans l'after et on en parlera, quoi.
Et puis, il peut y avoir des sujets qui vont prendre, qui ne devraient pas exister. Et qui vont exister maintenant.
Mais Lionel, dans ce pays, ça fait des années qu'on ne dit rien. Et ne rien dire, ça cause des fractures encore plus grandes. À un moment, il va falloir dire les choses.
Ouais,
est-ce qu'il y a des entraîneurs? Mais ça, donc, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Est-ce qu'il y a des entraîneurs, comme tu le disais toi-même, constituant un effectif?
C'est compliqué.
À quoi
c'est...
tu dois faire attention?
Tu dois faire attention. Bah, par exemple, est-ce que c'est de la discrimination de dire, faut faire attention parce que il y a des joueurs, il ne faut pas trop de joueurs qui vont jouer la CAN. Des internationaux, des très bons joueurs.
Ça, on va pas se mentir, ça existe dans le foot, depuis toujours.
Mais tu te poses la question, mais est-ce que ça va pas dériver en disant,
c'est que là, aujourd'hui.
Après, il y a l'autre question. Est-ce que la CAN,
au cœur de cette affaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore entendre, parce qu'on a l'impression qu'on dilue l'affaire à vouloir parler de ça. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, il va falloir attendre.
C'est peut-être quelque chose qu'on fait 10 jours. Justement,
je pense qu'il va falloir attendre 10 jours.
Et
on rappellera, toutes ces choses là qui se passent dans les vestiaires et qu'on met sous le tapis depuis des années, et qui créent des fossés. Ce qui se passe dans les centres de formation avec les gamins, les difficultés que rencontrent les éducateurs. L'autre soir, j'ai voulu aborder ça, je me suis fait lyncher sur Twitter en disant, mais en fait tu veux t'éloigner de l'affaire pour parler d'autre chose. Non, absolument pas, la porte est ouverte. On aura l'occasion, il va y avoir des semaines sans match dans 2 semaines maintenant, et on aura l'occasion d'ouvrir beaucoup beaucoup de débats.
Et je remercie Abdel au 32-16. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'affaire Galtier, qui forcément continuera demain avec la conférence de presse de veille de match du PSG. D'autres infos aujourd'hui tout de même importantes. Vous savez qu'il y a ce fameux PSG Lens samedi soir, d'ailleurs antenne spéciale sur RMC avec un after spécial en direct du Parc des Princes samedi, et même le retour de la libre antenne samedi soir de minuit à 1h. Vous savez qu'il y a eu ce chambrage de Medina, le défenseur lensois, qui a dit, moi Mbappé, s'il passe, je l'envoie dans l'ambulance. Alors Medina a lui-même tout de suite dit, bon, vous savez, évidemment que c'est du chambrage, ça fait partie du foot, faut se marrer et tout. Bon, ça a pris un peu des proportions quand même, à tel point que il a quand même eu une sorte de rappel à l'ordre du club, Medina, aujourd'hui, et que Hez a dû faire une mise au point en disant, bon, évidemment, c'était de l'humour.
Il y avait besoin de le dire, ça.
Oui, il y avait besoin.
Voilà, toutes les déviances, voilà tout ce, voilà où on peut en arriver, quoi. C'est ça le souci, quoi.
C'est chambrage, ça passe plus trop.
Non, tu pourras plus. Donc tu diras plus rien, tu vas plus chambrer, tu vas plus et tu vas arriver à avoir des déclarations, enfin des conférences de presse complètement
elles sont déjà très chiantes.
Oh non, ben là, ça va être encore
pire. Pour la plupart.
Ça va être encore pire. Tu voudras même plus plaisanter. Tu voudras même plus rien dire. Voilà, ça va
hier soir, on vous expliquait que Textor avait vendu l'OL féminin, mise au point aujourd'hui de Jean-Michel Aulas. Ah. Qui explique effectivement que le club est en discussion avec des investisseurs, une structure américaine pour la section féminine. Mais il dit attention, l'OL féminin reste l'OL féminin. Voilà, même si donc il y aura un changement de capital. Et il ajoute avec un président qui est Jean-Michel Aulas pour au moins 3 ans, dit-il. Alors bon, déclaration aujourd'hui pour rassurer. Maintenant, une nouvelle fois, c'est plus lui qui a la main. Hein, donc
c'est ce que je disais hier. Il prend la présidence de la structure féminine.
Mais il l'avait déjà.
Ouais, mais il va la garder.
Oui, il dit qu'il va la garder.
Il va la garder. Mmh. Il va se rapprocher d'elle.
Il dit en fait que l'OL a l'ambition, comme ça va être fait pour les garçons. En fait, ils veulent faire une sorte de multipropriété chez les filles. Avec donc cette nouvelle actionnaire américaine, avec une équipe en Amérique, aux États-Unis, une équipe en Europe, peut-être une équipe en Asie. Voilà ce qu'a expliqué Jean-Michel Aulas aujourd'hui. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de Sadio Mané, cette histoire là. Rappelons qu'il a frappé donc Leroy Sané. La presse sénégalaise fait état d'insultes racistes de Sané envers Mané. Bon, c'est ce qui se dit aujourd'hui. C'est ce que cite le site sénégalais Tagat. L'avenir de Mané, on ne sait pas trop parce que certaines sources en Allemagne ce soir font état d'une volonté du club de s'en séparer. Mmh. Alors, qu'en est-il ? On aura l'occasion de faire le point avec Paulo Breitner dans les jours qui viennent. Bien sûr. On n'a pas le temps de faire le débat ce soir. On se regarde pour la semaine, pour dans 10 jours. Vous savez, l'affaire des primes en équipe de France.
Ah oui, j'ai vu.
L'équipe qui révèle aujourd'hui que c'est une première dans le monde du foot. Les coachs touchent plus que les joueurs.
Je suis tombé sur le cul quand j'ai lu ça. J'ai dit bravo, bravo Dédé.
C'est bien négocié.
Qui a réussi cette négo ? Qui l'a accepté ?
Ah, sans doute Noël Le Graët.
Ils ont fait leur temps bouillant entre eux, comme d'hab.
Puisque c'est Didier Deschamps qui a pris la plus grosse prime de la Coupe du Monde.
Ouais, comme par
1,1 million d'euros, en plus de son salaire de 2,5 millions d'euros annuels. Les joueurs, eux, ont pris la moitié.
Je crois qu'on devait déjà avoir ça à la JO. 90
000.
Je sais pas.
Giroud disait toujours, je veux un franc de plus à l'époque que le meilleur de mes joueurs.
Bah voilà, mais je pense qu'on a vécu ça très longtemps, au CERF. on lui a toujours dit, coach, vous prenez plus de primes que nous. Non, les gars, vous inquiétez pas, mais je suis certain qu'on a vécu ça pendant 25 ans.
Possible. Allez, on conclut tout de suite avec Survivor.
Tant mieux pour lui.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Nouveau Survivor, nous sommes 20 membres de l'After sur la ligne de départ.
Je joue.
Bah, j'ai vu, t'as joué.
Ouais, je joue là.
Premier tour du 5e Survivor. Je rappelle quand même que lors du dernier Survivor,
j'ai mis de côté parce que je gagnais tout le temps. Donc.
Les 3 survivants qui ont joué avec nous sur Winamax.fr ont gagné 3 333 € de free bet, donc 10 000 euros de free bet à se partager à 3. Donc c'est quand même, donc c'est ça vaut le coup d'être concentré quand même.
C'est pour ça que tu veux jouer, Daniel.
Alors il y a beaucoup de monde qui joue Strasbourg, hein, des gens lucides comme moi, comme Jérôme Thomas, Maxime Nettrebert, Thibaut Jean-Grand, Roland Courbis, Jimmy Brown, Timothée Mémon, Jonathan Macardy, Romain Canuti joue Strasbourg qui reçoit Ajaccio.
Mon Dieu.
Il y a du monde qui joue Marseille, qui reçoit Troyes, Jamin, Tours, Diaz, Riolo.
Bah si, bien sûr.
Robert, Moussaïef.
Je joue tranquillement l'OM, on en parle plus.
Qu'est-ce que j'ai encore ? Vexio Villa qui joue Monaco qui reçoit Lorient.
Je fais une qualif Monaco-Lorient, ça se joue ça.
Le Pla et Gautreau qui joue Lille qui reçoit Montpellier. Et j'ai même un Pierre Dorian qui joue Clermont qui reçoit Angers, figurez-vous.
On accueille de plus en plus de monde. Hein,
ils voient tous qu'il y a des trucs à gratter, donc ils veulent en être.
Angers, pas facile à jouer en ce moment, hein, complètement libéré. Pierre, il a joué ça ?
Ouais. De toute façon, il n'y a que ceux qui ont joué l'OM qui vont passer.
Ouais, ça ferait du décalage. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont joué
dégâts.
Merci Lionel, merci Daniel. Je rappelle évidemment que le site de référence afterfoot.media est disponible pour vous pour commander la dernière revue. Évidemment, n'hésitez pas également à vous abonner pour témoigner votre fidélité à l'After. Allez, à demain soir.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot.